Comment se mobiliser en tant que personne racisée? Déconstruire le regard blanc, quelle représentation? Intersectionnalité, différentes oppressions, même combat, ou encore, plus récemment, impérialisme, comment lutter? Voilà quelques-uns des thèmes de discussion proposés par le Décolonial Social Club, une asso qui propose régulièrement des rendez-vous dans un bar lillois. Alors pour en savoir plus sur leur démarche, on a interviewé par téléphone deux membres de cet asso, le Décolonial Social Club.
Moi c'est Leïla, je suis étudiante en sciences politiques. Et à la base, je suis franco-algérienne et je viens de banlieue parisienne. Et je suis à Lille pour mes études depuis 4 ans.
Et moi, c'est Camilo, je suis aussi étudiant en sciences politiques à Lille, pareil pour les études. Je viens de Marseille et je suis franco-bolivien.
Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est né le Décolonial Social Club? D'abord, est-ce que c'est une association ou un collectif?
Bah, du coup, le Décolonial Social Club, de base, c'est une idée qu'on a eue tous les deux il y a 2 ans, parce que ça part d'un ressenti d'avoir besoin d'un espace pour les personnes racisées dans les milieux militants, donc quelque chose qu'on n'arrivait pas forcément à trouver. Et c'est une association, parce que elle est déposée en préfecture, etc. Mais je pense qu'on le vit un peu plus comme un collectif. Enfin, il n'y a pas de bureau ou de hiérarchie de quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment juste d'être ensemble, quoi, en fait.
Oui, voilà. Et vraiment, enfin, l'idée, c'était vraiment de créer des espaces de parole où on peut rencontrer une nouvelle personne, notamment des personnes qui n'ont pas forcément peut-être d'expérience associative ou militante, etc. Et qui sont quand même touchées par les thèmes qu'on aborde et par leur récit biographie, etc., qui peuvent se approprier certains thèmes, etc. Et donc, par des expériences vécues, de retrouver un peu, de pouvoir un peu affronter toute la politique en général. Voilà.
Alors justement, oui, quels sont un peu les objectifs de cette association, de quoi vous voulez parler, et puis aussi un peu sur les moyens d'action?
Nous, de base, on se positionne comme une asso antiraciste et antifasciste et intersectionnelle. Je pense que notre sujet de prédilection, c'est d'abord l'antiracisme. Parce que, comme j'ai un peu dit, c'était un sujet qu'on n'arrivait pas forcément à aborder dans d'autres milieux. Là, on fait des choses assez progressives. Hein. C'est aussi que c'est une petite asso. Donc là, on a commencé, on fait pas mal de groupes de parole. Mais le but, c'est de recréer du collectif. Et à partir de ça, que ce soit faire des actions ou faire des choses plus larges. Mais le but, c'est vraiment déjà de recréer quelque chose ensemble, mais de toucher aussi à tous les sujets, parce que on est aussi dans une dynamique qui est intersectionnelle et d'inclure le plus de personnes possible.
Voilà, exactement. Et vraiment, avec du coup ce prisme-là de la décolonialité et de la remise en cause un peu de l'idéal occidental, capitaliste, libéral, etc. Et comment en fait on peut voir d'autres perspectives, différents points de vue, de comment ce que représente un peu cet idéal blanc européen au final, qu'est-ce qui l'écrase, qu'est-ce qui l'empêche de d'autres cultures, visions, etc. De s'épanouir. Mais voilà, le but un peu c'est de d'aborder plein de thèmes de politique pour montrer un peu
une alternative aussi.
Exactement, et que oui. Et que les gens en fait montrent aussi que c'est celui que ça touche tout le monde au final. Et ouais. Et bon, du coup, d'abord on a commencé par là des groupes de parole surtout, parce que pour l'instant on n'est pas très nombreux au sein de l'asso, et que après on vise à organiser d'autres trucs.
Avant de reparler un petit peu des thèmes, des rencontres que vous proposez, et puis de parler de décolonialisme ou d'anticolonialisme, un point sur la question de l'ouverture de votre asso. Comment vous avez réglé ou pas peut-être cette question de l'ouverture de votre collectif? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Comment ça se passe cette question?
Du coup, pour le moment, tous les groupes de parole et les cafés sont ouverts à tous. On s'est posé la question de la non-mixité et pour nous, c'est une idée qui est totalement pertinente. Mais pour en avoir discuté un peu avec tout le monde, on se dit que c'est hyper important que la parole, elle se libère et qu'on puisse parler entre personnes racisées de choses qui nous touchent. Sauf qu'on s'est aussi que ce soit entre nous, mais aussi avec toutes les personnes qui viennent au café, si cette parole, elle est enfermée quelque part et qu'elle est que entre nous, aussi, ça sert à rien. Et qu'on n'a aucun problème à ce qu'il y ait des personnes non concernées ou des personnes blanches, quand on parle de racisme, qui soient présentes, tant qu'il n'y a pas de violence qui se répercute, tant que c'est pas des personnes qui essayent de nous imposer un vécu ou une façon de penser, et tant que c'est la parole des personnes concernées qui est au centre, on n'a aucun souci avec le fait que ce soit ouvert à tous, et même on est très content qu'il y ait des gens de tous bords différents qui viennent. Mais peut-être sur des questions, si on commence à aborder des questions de violence, que ce soit raciste ou sexiste et sexuelle, oui, là, on pense à une non-mixité aussi, peut-être aussi sur des questions queer. On n'est pas fermé à l'idée, mais pour le moment, en tout cas, on fait que des choses ouvertes à tous.
Et
Ah
pour
oui,
l'instant,
oui,
les
vas-y.
groupes de débat étaient sur des thèmes, bon, je vais pas dire légers, mais peut-être un peu moins traumatiques que certains autres sujets qu'on peut aborder. Donc pour l'instant, voilà, on avait gardé ce format-là, mais ça s'est tout à fait changeable.
Oui, et le but, c'est aussi d'écouter les personnes qui viennent et c'est de créer un endroit où tout le monde se sent bien et que du coup, si on a aussi des retours de personnes qui nous disent qu'ils sont pas très à l'aise, bah, à ce niveau-là, oui, on fera un autre format.
Vous avez parlé d'associations antiracistes. Vous auriez pu être l'Antiraciste Social Club ou l'Anticolonialiste Social Club. Vous avez choisi Décolonial Social Club. Qu'est-ce que vous mettez, vous, derrière ce mot décolonial, en fait?
Alors, pour nous, c'était très important de pas, justement, dans ce mot décolonial, il y a un peu, ça regroupe plusieurs choses, donc à la fois de l'antiracisme, mais pas uniquement, c'est aussi, tout, voilà, c'est un peu, on peut dire, de l'hégémonie culturelle un peu blanche occidentale, enfin, voilà, par à la fois la culture, mais aussi, voilà, l'idéal d'esthétique, on sait, enfin, voilà, qui regroupe beaucoup de choses. Donc, voilà, l'idée de la décolonialité, c'est vraiment voilà, par à la fois le prisme, de la race, mais aussi, du genre, et de cette hégémonie culturelle-là, de comment on peut remettre en cause certains discours, certains récits. Du coup, moi, les questions notamment sur l'Amérique latine, etc., ça me touche particulièrement. Et donc voilà, c'est un peu, pour le coup, c'est un courant qui vient essentiellement de là-bas, et donc notamment de la reconnaissance des peuples autochtones, etc. Et donc aussi, voilà, visibiliser d'autres combats qui proposent des alternatives claires à ce qu'on peut voir comme un système capitaliste et raciste, où du coup voilà, des peuples autochtones ont clairement des visions qui sont des alternatives directes à ce système-là, parce que en fait elles sont même pas anticapitalistes, mais elles sont non capitalistes, par exemple.
Et on avait vraiment cette volonté de lier, en fait, parce que, enfin, du coup, Camilo, il vient d'Amérique latine et moi, je viens d'Afrique du Nord. Et pour nous, c'était aussi hyper important de faire le lien entre ces différentes cultures et populations qui font face, en fait, aux mêmes problèmes d'impérialisme et en fait, de colonialisme. C'était très important pour nous de reprendre aussi en main cette dynamique-là et de contrer l'individualité du discours blanc occidental qui veut avant tout nous séparer.
Suite de notre entretien avec Leila et Camilo du Décolonial Social Club. Alors, si on se fie à nos livres d'histoire, la fin des colonies, colonies françaises, mais aussi colonies européennes, c'est le milieu des années 60. Pourquoi est-ce que cette question coloniale est toujours, selon vous, importante, impactante dans la société dans laquelle on vit?
Bah, en fait, la question des indépendances, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas totalement d'accord. Enfin, la colonisation a continué bien après les indépendances parce que c'est un système hégémonique raciale et capitaliste qui est toujours imposé aux pays, on peut dire anciennement colonisés, mais que ce soit l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique latine, même si c'est par d'autres moyens qui sont parfois vus comme un peu plus insidieux. En tout cas, on est dans un monde qui est toujours colonial, où il y a toujours une hiérarchie et toujours aussi un contrôle des pays européens et occidentaux et en fait, des États blancs sur le reste du monde. Et ça, c'est hyper important pour nous de le remettre sur la table. Et enfin, par exemple, hier, on avait un café donc sur l'impérialisme. Et on a parlé des États-Unis et du Venezuela et le fait qu'aujourd'hui les États-Unis sont au paroxysme de la colonialité et à quel point c'est un processus colonial qui existe encore aujourd'hui et c'est important de remettre les mots dessus.
Tout à fait. Et bah, pour prendre l'exemple de l'Amérique du Sud, les indépendances, pour le coup, en Amérique du Sud, elles sont arrivées au 19e siècle, donc c'était il y a plus de 200 ans. Et pourtant, en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a toujours les mêmes structures qui sont en place. C'est-à-dire qu'en fait, au moment des indépendances, il y a eu la capture des États par les descendants d'immigrés blancs européens. Et donc, en fait, aujourd'hui, il y a la même hiérarchie raciale et sociale qui se répercute avec, du coup, des peuples autochtones qui sont toujours marginalisés, toujours paupérisés, avec, voilà, où on rencontre, en fait, les descendants d'esclaves, c'est toujours ceux qui sont à la marge de la société et toujours ceux dont les territoires sont pillés et volés, notamment en Colombie. Et donc, en fait, cette question de la colonialité, bah, elle nous apparaît vraiment centrale parce qu'en fait, c'est quelque chose qui structure vraiment, au final, à la fois les relations internes au sein d'un pays, mais aussi les relations extérieures. Bah, typiquement, voilà, les États-Unis qui attaquent le Venezuela. Donc, c'est, voilà, pour nous, c'était un paradigme essentiel dont il fallait parler.
Alors vous l'avez dit, donc mercredi dernier, vous organisez cette rencontre intitulée Impérialisme, comment lutter? Alors, est-ce qu'il y a des idées qui sont ressorties? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ressentent de l'impuissance par rapport à ce type de situation.
Oui, ça, on en a pas mal parlé aussi de l'impuissance et enfin, on a bien conscience qu'on est dans un cadre hyper privilégié de pouvoir en discuter sans risquer notre vie dans un café. La question, c'était aussi, en fait, on a beaucoup parlé de cette idée de recréer communauté, de se réapproprier aussi tout ce qui est le langage et aussi beaucoup la question de la violence et de la non-violence face à cette en fait, violence d'État-là et cette violence coloniale. Donc voilà, on a pas mal discuté de tout ça.
Si, notamment de la question de la matérialité de la lutte, notamment par exemple, bah, des choses qu'on peut directement nommer comme de l'impérialisme, c'est par exemple la vente, la production d'armes en Europe et en France, qui ensuite est exportée et utilisée ailleurs. Donc par exemple des actions, voilà, de dénonciation des salons comme Milipol ou voilà de blocage de certaines entreprises, par exemple le blocage des exportations d'armes vers Israël, ou enfin voilà ce genre d'actions qui directement affectent cet impérialisme-là, mais qui aussi dans une structure plus insidieux, justement, cette question, ben, notamment, de la langue, de la culture, de la, voilà, le fait qu'il y a un peu une hégémonie, de la langue anglaise sur, les traductions en général, sur, aussi sur les récits, enfin voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres rencontres qui sont déjà programmées? Quels sont les prochains rendez-vous du Decolonial Social Club?
Bah, on va essayer de faire un café toutes les 2 semaines environ. On pense aussi à faire des projections et on participe au marché solidaire avec le CLLF donc le 31 janvier.
Le CLLF.
Le CLLF, le collectif lillois de lutte féministe. Et donc bah, après, avec d'autres assos, on essaye aussi bah, vraiment de s'ouvrir aux autres assos de Lille parce que nous, du coup, on est assez récent. C'est que depuis le début de l'année qu'on existe. Mais toujours dans une dynamique intersectionnelle. Le but, c'est de rassembler le plus de monde possible. Voilà.
Oui, vraiment, c'est aussi ce qui est super dans les groupes de parole, c'est qu'on peut vraiment créer un espèce de tissu associatif et social. Bah, à la fois pour les gens qui viennent d'arriver à Lille, mais aussi pour ceux qui, voilà, ont pas forcément réussi à avoir accès à certains lieux et événements. Et donc voilà, le but aussi, c'est justement de créer un peu ce lien entre les zones, bah, pour se soutenir entre nous, mais aussi, bon, voilà, pour qu'on ait le maximum de portée ensuite à l'échelle de Lille.
Ouais. Et enfin, n'hésitez pas à nous contacter et à nous donner quelconque proposition. Nous, on est ouvert à absolument tout. Et ça nous fait super plaisir de voir qu'il y a des gens de plein d'assos différentes, de plein de cultures militantes différentes aussi qui viennent nous voir et avec qui on parle. Et en tout cas, ça se passe super bien et ça nous fait trop plaisir.
Leïla et Camilo du Decolonial Social Club, asso qui propose régulièrement des rendez-vous discussions. Ça se passe notamment dans un bar qui s'appelle La Boulangerie, 28 rue des Postes à Lille. Pour être tenu au courant des rendez-vous, c'est sur Instagram, Decolonial Social Club.